interrompre la suite de notre exposé, la suite des chapitres du livre du Père Blaise Caléda sur le livre au foyer, pour vous parler un peu du carême, parce que nous allons entrer ce mois-ci dans le carême, qui a une importance liturgique considérable, et donc je crois qu'il est bon que nous en parlions un petit peu. Je vais redire certaines choses que j'ai eu l'occasion de dire l'autre jour quand j'avais une réunion de l'association des amis de Solan, mais je crois que beaucoup d'entre vous n'y étaient pas, donc ce n'est pas gênant pour certains de redire deux fois la même chose, et pour d'autres ce sera la première fois, parce que c'est une chose que vous connaissez déjà, mais qu'il est bon de rappeler. On peut dire que le carême est un fruit de l'expérience de l'Église. Le carême n'existe pas depuis les premiers jours de l'Église. Dans l'Église primitive de Jérusalem, il n'y avait pas de carême de 40 jours comme nous le connaissons maintenant. Notre carême s'est constitué, comme beaucoup des traditions de l'Église, au cours des quatre premiers siècles, et c'est au IVe siècle, après la paix de l'Église, lorsque l'Église a pu s'organiser librement, après la période des persécutions, que le carême, comme beaucoup d'autres choses dans l'Église, ont pu prendre leur physionomie définitive. Et c'est donc le fruit de l'expérience de l'Église pendant ces quatre premiers siècles qui ont été particulièrement féconds pour le christianisme. Très tôt, on ne sait pas exactement quand, on a célébré dans l'Église chaque année la fête de Pâques, anniversaire de la mort et de la résurrection du Seigneur. Je dis on ne sait pas exactement quand, parce que beaucoup de liturgistes pensent que, à l'origine, il n'y avait pas une fête de Pâques annuelle, mais simplement chaque dimanche de l'année était une célébration de la résurrection, de la mort et de la résurrection du Christ. Celui de la mort et la résurrection du Christ, on ne séparait jamais les deux. Et aujourd'hui, par exemple, chaque dimanche, nous avons à l'orthodoxe la lecture d'un des évangiles de la résurrection, des récits de la résurrection. Au IVe siècle encore, on lisait ce jour-là un évangile qui comportait un texte évangélique, au moins une partie du récit de la Passion et le récit de la résurrection. Il y avait toujours les deux qui étaient unis. Et c'est un peu plus tard qu'on a centré le dimanche uniquement sur la résurrection, mais à une époque ancienne, dans la nuit du samedi au dimanche, on célébrait à la fois la passion et la mort du Seigneur sur la croix et sa résurrection. C'est-à-dire le mystère pascal dans sa totalité, dans ces deux pôles qui sont la souffrance et la mort et la résurrection. Mais très tôt cependant dans l'Église, encore qu'on ne puisse pas le préciser, on a peu de documents sur les deux premiers siècles, on a célébré aussi chaque année, alors plus solennellement, le dimanche de Pâques, ou plutôt le Triduum pascal, où l'on célébrait essentiellement le vendredi, le samedi et le dimanche, qui suivait la première pleine lune de printemps, on célébrait la passion, la mort et la résurrection du Seigneur. Toujours tout ça bien uni ensemble, n'est-ce pas ? Mais assez rapidement, donc, on a eu chaque année, on peut dire peut-être dès le deuxième siècle, en tout cas au troisième siècle, donc cette célébration annuelle de Pâques, mais qui comportait essentiellement trois jours. En gros, vendredi et samedi saint actuel, le grand vendredi et le grand samedi, et puis le dimanche de Pâques, qui était suivi d'ailleurs de 50 jours de joie pascale, qui se terminait le dimanche de la Pentecôte. Et on appelait ces 50 jours la Pentecôte, la cinquantaine. Le nom de Pentecôte n'était pas réservé au dimanche où on fait la descente du Saint-Esprit, mais c'était la clôture des 50 jours qui, en grec, se dit Pentecostine, c'est-à-dire la cinquantaine pascale. Et alors, on avait donc les trois jours de la Pâque, et dans les textes anciens, dans les apocryphes des terres du désert encore, quand on parle de la Pâque, ce n'est pas seulement le dimanche de Pâques, mais c'est inséparablement le vendredi, le samedi et le dimanche de Pâques. Voyez-vous. Et alors, à cette époque-là, donc, il n'y avait pas encore de carême, de période de prolonger le jeûne pour préparer ces célébrations pascales. Simplement, le vendredi et le samedi saint, on jeûnait strictement, on s'abstenait de toute nourriture, et puis dans la nuit du samedi au dimanche, on avait un long office qui maintenant se trouve sous une forme un peu abrégée, reportée dans la, au milieu de la journée du samedi saint. Un long office, il comportait des lectures, un nombre important, ça variait selon les églises, entre 12 ou 15 lectures, avec les passages principaux de l'Ancien Testament où l'on voyait des figures, des annonces du mystère pascal, du mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Et entrecoupé le chant, n'est-ce pas ? Et puis ensuite avait lieu le baptême des catéchumènes, de ceux qui s'étaient préparés au jour du baptême cette année-là, et ensuite la liturgie eucharistique pascale. Il n'y avait pas nos matines de Pâques actuelles et notre liturgie de la résurrection du dimanche de Pâques. C'était cette grande vigile de la nuit qui était l'ensemble de la célébration pascale où tout le monde communiait, surtout les nouveaux baptisés, et on s'y préparait par deux jours de jeûne complet, vendredi et samedi, où il y avait aussi des réunions de prière, ça, sur lesquelles on n'a pas de détails. Donc, si vous voulez, d'une certaine manière, ces deux jours de jeûne qui préparent la nuit pascale sont un petit peu l'embryon de notre carême. Mais au cours du IVe siècle, on a développé cela. Seulement, ce qu'il faut dire, c'est que ce jeûne était au fond un jeûne eucharistique. C'est un jeûne pour se préparer pour les catéchumènes au baptême et pour les autres à la communion du dimanche, dans la nuit du samedi saint au dimanche de Pâques. Et donc, c'est plutôt le modèle de notre jeûne eucharistique actuel que du jeûne du carême. En ce sens que c'était un jeûne complet, donc, pour se préparer à la communion. Et aujourd'hui, la loi de l'Église prévoit que avant chaque communion, eh bien, on est à jeun depuis la veille au soir. Et c'est un jeûne qui n'est pas directement en rapport avec la passion du Christ, mais qui est un jeûne de préparation, un jeûne pour un état de vigilance, de tension spirituelle, pour nous préparer à la Sainte Communion. Et ce jeûne eucharistique, avant toute communion, a été d'ailleurs un usage universel dans l'Église, Orient et Occident, jusqu'au milieu du XXe siècle. C'est seulement depuis le milieu du XXe siècle qu'en Occident, cette coutume a été brisée. Mais on peut dire que c'est vraiment une tradition de l'Église, au sens le plus fort du mot, et vous savez, de notre point de vue orthodoxe, lorsque quelque chose a été gardé dans l'Église de façon pratiquement universelle en tout lieu et pendant des siècles, ben, c'est le signe que ce n'est pas une invention humaine, mais que ça s'est fait sous la conduite du Saint-Esprit. Le Seigneur avait dit à ses apôtres, pendant son discours après la scène, qu'il nous enverrait l'Esprit paraclé qui nous conduira dans la vérité tout entière, et précisément, dans l'Église, le Saint-Esprit agit, et le signe que de l'action du Saint-Esprit dans tous ces domaines, c'est le fait que un usage, une tradition, une interprétation doctrinale a été reçue universellement dans toute l'Église pendant des siècles, n'est-ce pas, et en tout lieu. Donc on peut considérer que nous sommes là pour le jeûne eucharistique, mais ça vaudra aussi pour le jeûne du carême qui s'est mis en place au IVe siècle jusqu'à notre époque, que ce n'est pas une invention humaine, ce n'est pas une chose purement pratique et créée par les hommes, mais ça s'est fait sous la conduite de l'Esprit-Saint qui est l'âme de l'Église et conduit l'Église. L'Église n'est pas une réalité simplement humaine, mais ça c'est l'ensemble du peuple chrétien animé, conduit par le Saint-Esprit et éclairé par le Saint-Esprit. Mais alors, donc, au IVe siècle, on a senti le besoin, au-delà de ces deux jours de jeûne complet préparant la communion pascale, de préparer à la fois les catéchumènes au baptême et à la communion de la nuit pascale, et de préparer aussi les fidèles à la célébration de Pâques par une période plus étendue de jeûne. Et finalement, dans l'Église universelle, là encore, Orient comme Occident, on a fixé, après quelques tâtonnements, le chiffre de 40 jours. Donc on peut dire que pendant 16 siècles, toute l'Église a connu cette période de 40 jours de préparation à la fête de Pâques. Avec le double aspect de préparation des nouveaux baptisés et de préparation de tous les fidèles à la participation au mystère de la mort et de la résurrection du Christ, renouvelé, célébré annuellement par la célébration liturgique de Pâques. Donc, on peut dire que notre carême, sous sa forme actuelle, date du IVe siècle, qui est l'âge d'or des pères de l'Église, qui est l'époque où nos liturgies se sont constituées presque dans leur forme actuelle, quelques additions ensuite, mais relativement peu de choses. Les textes de nos liturgies se sont constitués déjà en partie dès le IIIe siècle, mais fixés au cours du IVe siècle. Pour la liturgie latine, un petit peu plus tard, on peut dire que c'est la liturgie latine s'est mise en place dans la seconde moitié du IVe siècle et au cours du Ve et VIe siècle. Mais les liturgies grecques et orientales, elles, sont en place pour tout l'essentiel depuis le IVe siècle. Et au début du IVe siècle, on célébrait encore en grec à Rome. La liturgie romaine a été en grec jusque vers 360 à peu près, donc, autour de l'année 360. Donc 40 jours de préparation à Pâques. Pourquoi 40? Eh bien, d'abord, on a eu cette conscience très vive que pour se préparer à la fête pascale et au baptême de la catéchumène, il fallait une période marquée par le jeûne. Non pas une période de jeûne total, nous y reviendrons tout à l'heure, mais une période où le jeûne tient une place importante. Et le rapprochement s'est fait aussitôt avec le jeûne du Christ au désert. Le Christ a commencé son ministère public par une période de 40 jours de jeûne dans le désert, dans cette région désertique qui s'étend entre Jéricho et la mer Morte. Et donc, ces 40 jours de jeûne est un rappel des 40 jours de jeûne du Christ. Mais si le Christ a jeûné 40 jours, c'est parce que cette idée d'un jeûne de 40 jours, d'une durée de 40 jours, existait déjà dans la conscience du peuple d'Israël à l'époque, parce que ce chiffre de 40 rappelait à la fois la pérégrination des Hébreux au désert, l'Exode, entre le passage de la mer Rouge et l'entrée dans la terre promise, et puis également les périodes de 40 jours de jeûne, de préparation de Moïse, avant de recevoir la loi divine, d'avoir la manifestation de Dieu, la théophanie divine sur le Sinaï, et ensuite, de nouveau, le prophète Élie a eu également sur l'Horeb, sur le Sinaï, une manifestation divine, une théophanie qui avait été préparée par 40 jours de jeûne, une marche dans le jeûne de 40 jours vers ce sommet de l'Horeb. Donc c'est ce souvenir à la fois du jeûne du Christ au début de son ministère, qui est une préparation à tout son ministère et plus lointainement à sa Pâque, à sa mort et à sa résurrection, qui ont été un autre affrontement avec le diable, et un rappel des figures bibliques de ce jeûne du Christ que le carême a voulu rappeler. 40 jours de jeûne. Mais dans l'Église, depuis l'origine que je vous l'ai dit, était bien enracinée cette tradition où chaque dimanche est un mémorial de la résurrection. Donc le dimanche, du fait que c'est un mémorial de la résurrection, le jeûne est exclu. On ne peut pas jeûner le dimanche, le jour où on célèbre spécialement le passage du Christ de la mort à la vie et sa résurrection. Donc il fallait compter 40 jours sans le dimanche. Et puis, dans surtout le monde grec, très tôt on a eu aussi cette idée que le samedi, qui était le jour de la descente du Christ aux enfers, à cause de ça un jour on pouvait se servir pour le destin, mais rappelant la descente du Christ aux enfers, était déjà un jour marqué par l'idée de la résurrection toute proche, et qu'on ne jeûnait pas non plus le samedi. Et là il y a une différence, ils instauraient très tôt, au moins là encore dès le 4e siècle, entre le monde latin et le monde grec. Dans le monde latin, on jeûnait le samedi. On jeûnait le samedi pour se préparer justement à la nuit du dimanche et à l'étude du dimanche. Tandis que dans le monde grec, le jeûne était supprimé le samedi et le dimanche, tous les samedis et tous les dimanches. Alors ce qui fait que le carême a une durée un peu plus longue sur le calendrier dans le monde grec, puisqu'on en soustrait, il fallait avoir 40 jours avant Pâques, mais en soustrayant les samedis et les dimanches qu'on rattrapait en anticipant de quelques jours, n'est-ce pas ? Tandis que dans le monde latin, il n'y a que les dimanches qui sont retirés du carême, donc le carême est un peu plus court, d'une certaine façon. Bon, c'est un compute un petit peu différent, mais dans les deux cas, il y avait le souci de sauvegarder le chiffre de 40 et d'autre part le caractère essentiellement festif du dimanche comme mémorial de la résurrection. Donc nous sommes là en présence d'une tradition très vénérable et tellement universelle qu'on doit sans aucun doute y voir un effet de la conduite du Saint-Esprit sur l'Église. Alors le jeûne tel qu'il a été conçu par l'Église, par le peuple chrétien pendant cette période, était un jeûne, je dirais, ascétique, un jeûne qui, sous un rapport, devait nous faire participer aux souffrances du Christ, à sa passion, et d'autre part, un jeûne qui avait pour but, comme disent les pères, d'humilier notre âme, c'est-à-dire de nous faire sentir que ben, il ne faut pas nous appuyer sur nos forces physiques, mais que le fait de se trouver sur un certain état, dans un certain état d'affaiblissement, je dirais de pauvreté de ce point de vue-là, voyez-vous, d'appauvrissement de nos forces, nous permet de compter davantage sur Dieu, d'exprimer davantage notre besoin de Dieu, notre soif de Dieu, notre sens d'une pauvreté spirituelle qui nous met vraiment dans la dépendance du Seigneur. C'est un jeûne, ce n'est pas du tout un exploit pour montrer ses forces, mais au contraire, un jeûne qui a pour but de nous affaiblir, mais cette faiblesse a un sens spirituel qui est de nous faire percevoir justement notre condition de pauvre d'âme devant le Seigneur. Ceci est, je crois, très, très important parce que le rôle du jeûne, ce n'est pas du tout d'être un exploit, qui va être le plus fort et qui va pouvoir tenir le plus longtemps et le plus fortement possible. Ce serait déformer complètement la signification du jeûne. Mais alors, ce jeûne de carême, il faut bien comprendre en quoi il consiste. Le jeûne, proprement dit, reste une abstinence totale de nourriture pendant un temps donné. Et alors, le jeûne de carême signifie d'abord que pendant les jours de carême, les semaines de carême, à l'exclusion du samedi et du dimanche pour la tradition grecque et orthodoxe, on va rester à jeun une partie de la journée. Et à l'origine, on célébrait les vêpres seulement dans l'après-midi, et on restait à jeun tous les jours jusqu'à la fin des vêpres, jusqu'après les vêpres. Assez souvent, l'évêque était lié à une distribution, non pas une liturgie eucharistique, festive, mais une distribution de la communion, simplement, qui marquait la fin du jeûne. Et c'est après cette distribution de la communion, nous avons maintenant liturgie présanctifiée, liée aux vêpres, qu'on prenait de la nourriture. Et même dans certains lieux, cette liturgie des présanctifiés n'avait lieu deux fois par semaine, le mercredi et le vendredi, ce qui signifiait qu'on restait complètement à jeun le lundi, le mardi, et que seulement le mercredi soir qu'on prenait un repas. Et puis de nouveau, on restait à jeun complètement le jeudi et le vendredi dans la journée, et on ne prenait un second repas que le vendredi dans la soirée. Enfin, ceci a été tout de même plutôt dans des monastères et relativement exceptionnel. En général, la règle commune était de rester à jeun jusqu'aux vêpres, qui étaient liées ou non à l'institution de la communion eucharistique, et puis on prenait le repas après les vêpres. Et peu à peu, l'usage s'est pris, la faiblesse humaine aidant, d'anticiper les vêpres, de célébrer plus tôt, ce qui fait que le retard du repas est devenu moindre. Mais le jeûne, proprement dit, c'est une abstinence totale de nourriture pendant un temps tout de même assez long. Donc c'est ça qui est l'essentiel du jeûne. La pratique de jeûner complètement, de s'abstenir complètement de nourriture pendant un temps prolongé, une semaine, plusieurs semaines, ça, n'a jamais été dans l'Église que le fait de quelques ascètes, de quelques moines particulièrement zélés. Ça n'a jamais été une pratique générale. Donc, en carême, un seul repas est pris plus tard que d'habitude, disons en gros. Et puis alors, pour toute la durée du carême, s'ajoute à cet usage donc, d'avoir qu'un seul repas pris relativement tardivement, s'est ajouté l'usage de ne prendre le reste du temps, même les samedis et dimanches, qu'une nourriture beaucoup plus sobre que le reste de l'année. Donc une nourriture d'où sont exclus non seulement la viande, bien sûr, mais même le poisson, l'huile d'olive et tous les laitages. Donc une nourriture essentiellement végétarienne, mais alors là, tous les jours, y compris les dimanches, pour que l'ensemble du carême garde une tonalité de pénitence, on ne passe pas constamment d'un jeûne strict à une nourriture sans limitation et sans règle. Donc on peut dire qu'il y a deux choses à considérer du point de vue du jeûne dans le carême. Il y a le jeûne strict, le jeûne proprement dit, auquel il faut tâcher d'être fidèle au moins de ne rien prendre avant l'heure normale du repas. Mais comme ce repas est maintenant avancé, on tolère que le soir, plus tard, on puisse prendre aussi une collation, mais une collation sobre. Une petite collation pour tenir jusqu'au repas du lendemain. Normalement, c'est un seul repas les jours de jeûne. Et puis alors, d'autre part, cette abstinence de certains aliments, alors c'est ça qui est peut-être le plus difficile à supporter pour les Occidentaux. Alors quelquefois, des gens me disent, mais ça n'est pas notre culture. Mais ça, nous avons pour des Grecs, des Orientaux, bon, mais ça n'est pas notre culture occidentale. Je dirais que c'est une culture très récente. Parce que je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont été élevés avant la guerre de 40, dans des familles vraiment chrétiennes en Occident, je peux dire que dans ces familles, on observait strictement le jeûne à peu près, à peu de choses près, de la même manière que dans l'orthodoxie. Dans ma famille, ce jeûne de carême, et comme toute l'année, le jeûne des vendredis, était observé de façon tout à fait stricte, avec réellement un seul repas et une nourriture pratiquement uniquement végétarienne. Encore qu'en Occident, depuis le Moyen-Âge, le poisson était autorisé d'en mettre. Et c'était la seule exception. Et je me souviens que le Vendredi Saint, justement, c'était un jour de jeûne strict, mais où seule la morue était autorisée. Parce que la morue, à l'époque, était considérée comme un poisson très commun, très, le poisson du pauvre. Et alors, ces jours-là, les épiciers, les grands épiciers, le patron de l'épicerie, se faisait, au moins la veille ou le matin du vendredi saint, un honneur à vendre lui-même la morue salée. Oui, c'était presque un rite, je me souviens, où ce jour-là, c'est le patron de l'épicier qui avait un étalage spécial avec des morues séchées, la veille du vendredi saint, le jeudi, pour vendre les morues salées, qui étaient l'unique, avec des pommes de terre, l'unique nourriture du vendredi saint. Mais le reste de l'année, du carême et les vendredis de l'année, on jeûnait strictement avec un seul repas et en s'abstenant pratiquement de toute autre nourriture que des légumes. Donc, ça n'est plus l'habitude en Occident, c'est certain, mais ça n'est pas une culture occidentale très, très ancienne. D'autre part, c'est sûr que la culture d'un pays est à ses fonctions quand même des convictions religieuses, ça n'y a pas de doute. Et c'est normal que dans un pays orthodoxe, les habitudes alimentaires soient différentes de ce qu'est aujourd'hui un pays catholique ou de ce que sera un pays musulman, par exemple. Et justement, si on est orthodoxe, ben, c'est normal que sur ce point-là, on modifie un peu sa culture. Et c'est très important parce que si on essaie d'observer les règles du jeûne orthodoxe, mais sans rien modifier ses habitudes culinaires et autres, à ce moment-là, on n'en sort pas. Et je vois des gens qui me disent qu'ils sont horriblement malheureux dans le carême, parce que, vous comprenez, midi et soir, je ne mange que des pâtes cuites à l'eau. Bon, évidemment, si vous mangez des pâtes cuites à l'eau midi et soir dans tout le carême, vous allez prendre le carême en grippe. Bon. Mais justement, il faut bien savoir quelles sont les règles du carême, il y a quand même pas mal d'aliments qu'on peut prendre, il y a une variété de légumes considérable que l'on peut prendre, et puis il faut savoir aussi que les crustacés, les fruits de mer, préparés simplement, ne sont pas interdits. On peut très bien prendre des moules, des crevettes, des choses comme ça. Même le dimanche, le poisson n'est pas autorisé en carême, mais les fruits de mer le sont. Donc on peut, de cette façon-là, avec un petit peu d'imagination, et j'aurais un petit peu d'imagination, trouver des formules culinaires avec des crudités également, à régime végétarien qui soit substantiel, suffisant pour se soutenir, suffisamment agréable pour ne pas prendre de carême en grippe. Et donc c'est une question un petit peu à la fois d'imagination. Et puis, il est bon de connaître aussi ce qui se fait en Grèce ou dans les pays orthodoxes. Et comme je vous l'ai dit plus d'une fois, n'est-ce pas, il est très bon, quand on est orthodoxe français, d'aller de temps en temps passer des vacances en Grèce, dans des familles grecques, d'avoir avec elles des liens d'amitié. De Grèce ou de Chypre, pendant le carême, ils mangent volontiers des escargots bouillis. Bon, je ne vous le conseille pas. Les escargots simplement bouillis, vous savez, ça n'est pas très... Ce n'est pas ça que vous réconcilierez avec le carême. D'ailleurs, tous les Grecs n'en sont pas enthousiastes. Je connais un prêtre catholique français qui aime beaucoup l'orthodoxie, qui aime beaucoup, et qui est allé comme ça en carême, passer quelques jours à la Grande Lavra, au monastère de Lavra, au Moïtos, et pour l'honorer au réfectoire, on l'avait mis à côté du père Igoumène. Et ce jour-là, chacun avait une bonne assiette de escargot bouilli. Bon, le pauvre prêtre français, il a un peu goûté, il n'a pas trouvé ça bon du tout. C'est un caoutchouc, vous savez, un caoutchouc au goût un peu écœurant. Alors, pour les débarrasser, il l'a avalé à toute vitesse. Il a mis son assiette à toute vitesse. Bon, et il est tout content d'avoir terminé son assiette comme cela. Quand le père Igoumène, qui n'est pas touché à l'assiette, je penche vers lui et dit: je vois que vous aimez beaucoup ça. Prenez donc mon assiette. Et il passe son assiette. Bon, ça, je ne vous conseille pas. Mais par contre, des crevettes, des calamars, et des choses comme ça, on peut faire quelque chose de très mangeable, d'excellent. Et tout en observant parfaitement les lois de l'Église. Et puis, d'autre part, il faut savoir que, pour toutes les raisons de l'Église, le carême a pour but de nous faire éprouver une certaine faiblesse physique, cela, par cette abstinence de nourriture. Mais si on est déjà affaibli, malade, là il faut en parler à son père spirituel, mais il y a bien des accommodements possibles qui sont nécessaires. Il y a déjà d'ailleurs une règle canonique du 4e siècle, une réponse, je crois, d'un pavien d'Alexandrie au 4e siècle. On lui demande si une femme enceinte doit jeûner en carême. Et il répond, mais le carême a pour but d'affaiblir les gens qui sont en pleine vigueur. Si on est déjà fatigué pour une raison de santé, parce qu'une femme est enceinte, eh bien, à ce moment-là, elle n'a pas à jeûner. Donc, dans le concret, il faut toujours voir avec son père spirituel, étant donné nos conditions de vie, comment jeûner. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous lirai une page du père Gleb Kaleza, où il en parle un peu à propos de ce qui se fait en Russie aujourd'hui. Donc voilà pour le jeûne de carême. Voyez-vous, et l'essentiel n'est pas de faire des exploits et de prouver qu'on peut être un grand jeûneur, mais d'humilier son âme en éprouvant une certaine faiblesse physique et en expérimentant dans son corps lui-même que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. Et le jeûne bien pratiqué peut nous rendre, doit nous rendre genre plus sensibles aux choses de Dieu. Là, quelqu'un qui n'était pas chrétien, mais qui avait été fortement influencé par l'évangile christianisme, Gandhi disait déjà que le jeûne est à l'âme ce que les yeux sont au corps. Et oui, c'est que le jeûne éveille le regard intérieur. Le jeûne nous donne ce sens intime des choses spirituelles. Mais au jeûne, les pères ont la tradition de l'Église a toujours associé l'aumône. On a toujours insisté sur le fait que si on mange moins en carême, eh bien ça permet de faire quelques économies et de faire davantage l'aumône pendant le carême. Donc, là, c'est aussi une tradition qui existait jadis dans le monde catholique, j'ai vu ça dans mon enfance, où cette tradition de l'aumône de carême, c'était entendu pendant le carême, on donnait davantage aux pauvres, il y avait un aspect de partage, c'est peut-être un des seuls aspects du carême sur lesquels, dans le monde occidental actuel, on insiste encore un peu. Mais qui est fondé, qui est une chose très juste. Jeûner sans faire cet effort de charité fraternelle, c'est un jeûne qui n'aurait pas de sens. Si vous jeûnez et que par ailleurs, non seulement vous ne faites pas l'aumône, mais vous êtes désagréable envers le prochain, vous mordez le prochain, n'est-ce pas? Eh bien, à ce moment-là, vous ne jeûnez pas véritablement. Et on raconte que dans le réfectoire de la communauté de Saint-Augustin à Hippone, Saint-Augustin est à la fois évêque et supérieur de la communauté monastique. Et dans le répertoire, il avait fait mettre quelques maximes pieuses, comme ça, dont l'une était « Mieux vaut manger de la viande que de ronger la réputation de son prochain. » Oui. Donc, en carême, il y a un effort de charité fraternelle à faire parallèlement à l'effort de jeûne. Il ne faut pas que si le jeûne nous rend acariâtre, désagréable, ça, eh bien, c'est que nous jeûnons mal. J'ai eu l'occasion de vous raconter l'histoire d'une brave dame à l'époque où j'allais à Montgeron. Le soir, une dame vient me voir et me dit à mon père, on arrive vers le carême, c'est un cauchemar pour moi. Je lui ai dit, pourquoi? Quand je lui ai expliqué que le carême, il faut voir, il faut adapter, je lui ai dit, pourquoi ça? Parlez-vous, parce que mon mari, il est, vous savez, un orthodoxe strict, n'est-ce pas? Alors, pendant le carême, mais il faut ne pas, qu'il n'y ait pas la moindre goutte d'huile dans la nourriture, il regarde la soupe pour voir s'il n'y a pas, s'il n'y a pas les yeux sur la soupe, s'il n'y a rien de gras. Ça, c'est, vraiment, il observe le carême à la lettre, n'est-ce pas? Avec pointilleux, attentif comme tout, n'est-ce pas? Alors, je lui dis, c'est très édifiant, votre mari. Elle dit, oui, mon père, mais voyez-vous, le carême commence dans 3 semaines, et déjà, il est d'une humeur exécrable. Bon, c'est pas ça l'esprit du carême.
Mais dans les stichères de la 6e semaine, on chante Nous jeûnons d'un jeûne agréable.
Oui, oui. Oui. Donc, jeûne auquel il faut associer l'aumône et la charité fraternelle, et puis la prière. Et là aussi, c'est un élément essentiel de la tradition de l'Église quant au carême, n'est-ce pas, où on intensifie l'effort de prière pendant le carême. Ceci est très sensible dans la liturgie. Les œuvres de carême sont plus longs. Les œuvres de carême, ça représente tout ce livre-ci. Vous avez, pour les parties propres du carême, là-dedans, il n'y a pas les parties communes qu'on trouve toute l'année, mais les parties propres aux offices de carême, ça représente un volume qui, sans les tables, la table de matière, fait 660 pages. C'est d'ailleurs très nourrissant et très beau. Ce sont des textes vraiment admirables, n'est-ce pas ? Donc, dans la mesure du possible, il serait bon pendant le carême, d'une part, d'assister davantage quand on le peut aux vêpres, à l'orthros, quand c'est possible, et puis chez soi, peut-être d'augmenter un peu le temps que l'on consacre aussi à la prière, prière du matin, prière du soir, au moins qu'on ajoute la prière de Saint-Éphrem, cette prière de Saint-Éphrem caractéristique du carême. Le Seigneur est maître de ma vie, ne m'abandonne pas l'esprit de paresse, d'indiscrétion, d'ambition ou de vain bavardage, mais donne-moi en servitude un esprit de pureté, d'unité, de patience et de charité. Oui, Seigneur et roi, donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère. De voir mes fautes et de ne pas juger mon frère. Bon, ça c'est presque l'essentiel de la prière. Oui. Donc cette belle prière de carême, là, de la reprendre tous les jours, si possible, matin et soir. Donc, insistance aussi sur la prière. Et c'est de cette manière-là, donc, que notre carême sera marqué de ce que le Père Schmemann, qui a écrit un très beau livre sur le carême, le grand carême, je ne sais pas s'il est encore, alors, si on le trouve encore, si on peut éditer, et si vous l'avez en vente ici. Oui. Parce que ce livre, le grand carême, c'est un petit livre, mais qui est remarquable. Remarquable pour donner le sens, la spiritualité du carême. Je crois que tout orthodoxe qui veut vraiment vivre son esprit de la liturgie, de l'Église, devrait bien le lire et s'en imprégner. À ce moment-là, donc, le carême sera pour nous, comme dit le Père Schmemann, vraiment le printemps des arbres. C'est un terme d'ailleurs qu'il emprunte à la liturgie. Et c'est très frappant de voir que les textes liturgie de carême eux-mêmes font plusieurs fois allusion entre le parallélisme qui existe entre la saison, le printemps, et puis le carême. Donc le carême n'est pas quelque chose de triste, de morose. Il ne s'agit pas de prendre une mine de carême pendant 40 jours, c'est ça. Mais au contraire, c'est le printemps des âmes, et notre sentiment dominant doit être ce que le Père Schumann encore appelle la radieuse tristesse. Et Saint Jean Climac fait un tout un chapitre justement sur la bonne tristesse, qu'il intitule « La tristesse qui produit la joie ». Et il montre que, dans son chapitre, il insiste sur le fait que la vraie tristesse, selon Dieu, renferme en elle-même une joie secrète, comme dit-il, le miel est renfermé dans la cire, dans le rayon de cire. Donc c'est ça qui doit vraiment donner l'esprit du carême. Alors, pour terminer aujourd'hui, je vous dis simplement, il n'est pas très long, le paragraphe du père Gleb Kaleda sur le carême, dans son livre que nous suivions jusqu'ici. Beaucoup de choses ont été écrites par de saints hommes sur l'importance du carême. Dans le carême, le plus important est la sobriété spirituelle intérieure, la concentration de la prière et le repentir de ses péchés. Jeûnons corporellement et nous jeûnons également spirituellement, peut-on lire au début du grand carême dans les textes justement liturgiques du triode. Ce n'est pas tant le carême en tant que non-consommation de nourriture ou la privation de quelque chose de plaisant qui est important. Tout cela n'est qu'un moyen, un moyen vérifié d'élévation spirituelle. Et j'insiste même. Pour bien pratiquer le carême, il faut avoir le souci d'observer la tradition de l'Église. Mais ça ne veut pas dire, justement, d'une façon puritaine, de se priver de tout ce qui est agréable. Et j'ai vu, tu vois, des gens s'étonner que la confiture ne soit pas interdite en carême. Mais non, la confiture n'est pas interdite. La confiture, c'est parmi les aliments possibles de carême. Donc vous pouvez très bien, à la collation du soir, prendre une tartine de confiture, si vous voulez, là, vous serez parfaitement fidèle à la loi de l'Église. Je ne dis pas de manger tout un pot de confiture. En gardant la mesure, c'est tout ça, c'est légitime. Ce n'est pas parce que c'est agréable que ça ne convient pas dans le carême. Le carême, c'est le renforcement de la volonté qui fait défaut à tant de gens et qu'il faut développer chez les enfants. Il y a un effort de volonté, là, quand même, et qui est important, parce que ce qui nous manque beaucoup, c'est cette éducation de la volonté. Le carême sert à prendre l'habitude de diriger son corps et ses désirs en les limitant. Le carême, c'est un combat plus concentré avec le péché, une prière particulièrement tendue. Le carême, c'est le repentir. Pendant le carême, il convient d'augmenter la règle de prière en y ajoutant ne serait-ce que la prière Saint-Éphrem, dont je parlais tout à l'heure. Limiter la fréquentation du cinéma, du théâtre, écourter les heures passées devant la télévision. Lorsque le confesseur a autorisé une femme vivant dans une famille qui ne jeûnait pas à tout manger, mais lui a interdit de regarder la télévision pendant le carême, elle lui a déclaré au moment de Pâques, « Voilà, cela a été pour moi un véritable carême. » Simplement de jeûner complètement de télévision pendant le carême. Il faut introduire le carême avec beaucoup d'attention chez les enfants, car il ne doit entraîner ni protestation ni abattement. Chaque membre de la famille, selon son âge, sa santé, les efforts physiques qu'il doit fournir et son état spirituel, doit avoir sa propre mesure de carême. De nombreuses familles refusent complètement la viande. On se passe complètement la viande dans le carême. Mais certaines personnes mangent des produits laitiers ou du poisson. Ce qui est le plus important, c'est une attitude consciente et résolue envers le carême. Pour la vie spirituelle, il n'est pas profitable de l'ignorer complètement. Il faut faire tout ce qu'on peut, mais seulement ce qu'on peut. Les membres de l'Église doivent suivre le rite des cycles annuels des offices. Les résolutions du carême doivent être prises avec l'accord du Père spirituel. Et le carême, normalement, s'achève par la confession et la communion au Saint-Don. Alors, le grand carême débute par le dimanche du pardon, lorsque tous les proches et amis dans les paroisses se demandent mutuellement pardon pour les offenses qu'ils ont infligées et les comportements qu'ils ont eus. Durant le carême, la nature intime de l'homme apparaît. Chez les uns, la chaleur de la prière s'élève et des péchés invisibles auparavant deviennent visibles. Chez d'autres, l'irritabilité et la méchanceté grandissent. L'irritabilité témoigne de l'absence de la prière ou de son caractère formel ou bien d'un carême suivi uniquement matériellement. Les enfants peuvent devenir irritables et abattus si le carême est trop difficile pour eux. Donc de bien mesurer ce qui convient à chacun. Donc en famille, ça c'est le rôle des parents, à la fois de faire prendre conscience aux enfants de l'importance du carême, mais en même temps que le carême garde pour eux justement ce caractère de printemps des âmes, n'est-ce pas, et d'une période joyeuse dans sa façon. Et que ce soit quelque chose qui soit porté avec une certaine allégresse spirituelle et non pas comme un carcan. Bien, avez-vous des questions? Les règles de carême, ça, vous les avez à la fin du calendrier que nous avons édité là. Il y a toutes les règles du carême, les règles du jeûne qui sont indiquées. Oui,
Guérandin, je voudrais revenir sur le jeûne eucharistique, parce qu'il y a certaines périodes dans l'année, comme par exemple la semaine du publicain, du pharisien, où il n'y a pas de jeûne.
Oui.
Et, vous parlez du jeûne eucharistique tout à l'heure. Est-ce que le jeûne eucharistique est valable pour toute l'année?
Alors, le jeûne eucharistique, proprement dit, c'est un jeûne De rester à jeun depuis la veille au soir jusqu'à la communion, oui.
Oui, quel que soit
tout à fait, tout à fait. Et d'autre part, alors, mais ceci n'est pas un canon strict de l'Église, mais une coutume pieuse générale, au moins dans la tradition grecque, c'est de prendre un repas dit de jeûne, c'est un repas comme on prend en carême, la veille au soir. Et, vous, et ça, on peut le faire même des jours qui ne sont pas des jours de jeûne, qui sont communis le lendemain. La seule période au Moïtos où on n'a aucune forme de jeûne avant de communier, c'est la semaine de Pâques, la semaine qui suit la fête de Pâques. Ou alors là, toute nourriture, y compris les œufs, ça sont permis le soir et on communie le lendemain quand même sans problème. Mais c'est seulement pendant la semaine de Pâques. Et le reste de l'année, donc, normalement, on a toujours un repas de jeûne quand on veut communier le lendemain.